Notre lecture ce matin sera dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, au verset 11 à 17, dans notre Nouveau Testament, la page 73. Nous écouterons cette lecture après avoir prié. Prions un moment ensemble. Père très bon, merci pour ta parole de vie, toujours lumineuse et puissante, qui descend d'une façon mystérieuse au-dedans de nous, dans les profondeurs de nos êtres, pour y accomplir une mission, pour y effectuer toutes sortes de transformations. C'est mystérieux tout ça, comment ta parole œuvre et agit par ton esprit. Mais nous en sommes les heureux bénéficiaires et nous te célébrons pour toutes les fois où ta parole puissante est venue nous renouveler, nous relever, nous façonner à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants ce matin d'une nouvelle occasion d'être ensemble pour l'écouter et nous te supplions d'œuvrer en nous par ton Saint-Esprit pour établir tes vérités, ta vie en nous, d'une façon plus entière et pleine. Accompagne-nous, Seigneur, et fais du bien. Nous t'en supplions à chaque personne ici présente ce matin, dans le beau nom de Jésus-Christ, le glorieux Rédempteur que nous avons. Amen. Écoutons ensemble la lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il glorifiait Dieu et disait, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée, tout entière et dans tous les environs. Amen. Une autre personne vient de mourir. Une autre. Chaque deux secondes sur la terre, une personne meurt. 160 000 personnes chaque jour. Pourquoi? La Bible répond, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de mort, pas de deuil, pas de larmes, pas de tristesse, pas de ces infinies détresses qui sont sur la terre entière depuis si longtemps. Mais le péché existe. C'est pourquoi on appelle souvent la terre une vallée de larmes. Mais notre consolation, c'est que Dieu a le remède au péché et à la mort. Et le merveilleux texte biblique que nous venons de lire nous parle justement de ce remède. Ce texte nous met en contact avec une veuve éplorée qui vient de perdre son fils. Elle pleure. Vous qui avez l'habitude, la bonne habitude de lire régulièrement la Bible, vous savez que la Bible parle beaucoup des pleurs, des larmes et de tous les dérivés, les synonymes de ces mots-là. Tous les grands personnages de la Bible ont versé des larmes et ont pleuré dans toutes sortes de circonstances, pour toutes sortes de raisons. Abraham a pleuré quand il a perdu sa femme, Sarah. Ésaü a pleuré quand son frère Jacob lui a volé sa bénédiction. Noémie a pleuré avec Ruth et Orpa suite au fait qu'elles étaient devenues veuves. Anne a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. David a pleuré quand il a dû se séparer de son meilleur ami, Jonathan. Le roi Ézéchias a pleuré le jour où il a appris qu'il avait une maladie mortelle. Le prophète Jérémie a pleuré devant la ville de Jérusalem détruite. Et les exilés à Babylone ont pleuré en se souvenant de la gloire de Jérusalem d'autrefois. L'apôtre Pierre a pleuré amèrement après avoir renié son Sauveur à 3 reprises. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Et nous pleurons, nos larmes trouvent une place en quelque part dans la grande histoire du peuple de Dieu. De tous les personnages attristés de la Bible, Luc 7, 11 à 17 nous amène ce matin à la rencontre de cette veuve dont le fils unique est allongé mort dans un cercueil ouvert. Elle est, elle, à la tête d'une procession funèbre. Et le texte nous dit qu'il y a une grande foule, une foule considérable qui suit cette procession-là. On peut imaginer les cris, les pleurs, les larmes qui sont versées. Que de douleurs évoquées ici dans cette histoire. Cette femme accompagne au tombeau la seule personne qui lui restait, puisqu'elle était veuve, elle avait perdu son mari, peut-être précocement, et maintenant elle perd son fils. Elle se retrouve seule au monde, on pourrait dire, grandement démunie. Elle avait plusieurs raisons d'être désespérée. Juste d'abord, du point de vue sentimental, le seul qui pouvait lui apporter réconfort, force, secours, ressources, c'était son fils. Maintenant, il est mort. Donc, on imagine sans difficulté ses larmes abondantes, son chagrin. Mais aussi, il y a le fait, on pourrait dire, sa détresse économique dans un certain sens, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas évident pour une femme veuve de gagner sa vie. Les femmes comptaient beaucoup sur leur époux pour les protéger, les secourir, gagner la vie. Donc, économiquement, ça voulait dire qu'il y allait avoir pour elle des jours très difficiles qui s'en venaient. Elle se retrouve donc seule au monde. Cette veuve qui marche avec des pas pesants, avec ses rêves brisés, avec ses espérances déçues, elle est comme une image de notre monde depuis l'entrée du péché dans l'humanité. Les gens qui bénéficient des miracles du Seigneur Jésus dans les évangiles reflètent la triste condition de l'humanité dans ce monde. À cause de la mort qui nous attend, à cause du péché qui est là partout, tout ce que nous faisons et entreprenons et espérons est en quelque part assombri, alourdi par la perspective de la mort qui va mettre fin à tout. En quoi se trouve votre espérance si votre espérance est dans l'amour romantique? À un moment donné, vous allez être déçu. Si votre espérance est dans votre physique, votre santé, votre allure, votre beauté, à un moment donné, ça va vous lâcher. La Bible dit, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Est-ce que toute votre espérance est dans vos succès, vos bien, alors éventuellement, ces choses-là ne pourront pas vous suivre jusqu'à la porte de la mort. Ces choses-là ne peuvent pas vraiment satisfaire, mais vraiment pleinement à 100% à ce que vos âmes désirent, après quoi elles aspirent. Donc, notre monde est frappé par la mort, par la tristesse, par la perte, à tous les niveaux. L'expérience de cette veuve est comme une image de l'humanité déchue à cause du péché. Il y a des larmes, il y a des lamentations, il y a du trouble de toutes sortes. Et cette femme, donc, s'en va vers le lieu où on dépose les morts. Mais le Fils de Dieu est venu avec des paroles de consolation et avec la puissance de la vie, et le voici, qui nous amène des moyens de faire face courageusement à la sinistre réalité de la mort. Si cette veuve est en tête d'un cortège de mort, Jésus vient en tête d'un cortège de vie. Il y a des gens qui le suivent depuis plusieurs semaines, alors que Jésus se promène d'endroit à un autre. Il y a des gens qui se greffent à lui. Donc, il y a une foule aussi considérable qui suit le Seigneur Jésus, et Jésus est en avant, celui qui dirige le cortège de la vie et de la lumière. Et c'est tout un contraste entre ce cortège de mort, de pleurs, de lamentations, de larmes, de douleurs, et le cortège de la vie, de celui que la Bible appelle le prince de la vie, celui qui donne la vie, celui qui est plus fort et victorieux sur le roi des épouvantements. Vous vous souvenez, Job appelle la mort le roi des épouvantements. Mais le roi de gloire, le roi des rois, le prince de la vie est plus fort que le roi des épouvantements. Nous lisons verset 13. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus est ému de compassion. Il est bouleversé dans ses entrailles. Ici, il n'y a personne, semble-t-il, qui va lui demander de faire quelque chose. C'est lui qui prend l'initiative, comme c'est souvent le cas aussi, pour aller vers cette personne. Il voit la souffrance, il voit la douleur. Il est saisi d'un profond et vif sentiment de sympathie, donc il va vers elle. Nous voyons ici, comme lors de la résurrection de Lazare ou lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, un sauveur compatissant et puissant qui vient au secours de ceux qui souffrent. La bonne nouvelle de la foi chrétienne tourne autour d'un sauveur qui est venu nous secourir dans nos misères, qui avait compassion, qui a des paroles de réconfort, qui a une puissance invincible pour faire repousser tout ce qui nous plonge dans les larmes et la douleur. Jésus s'adresse d'abord à la veuve éplorée et lui dit ces paroles qui sont étranges pour nous et étonnantes. Ne pleure pas. Ça aurait été des paroles vides si Jésus n'avait pas soulagé la cause de la douleur de cette femme. Mais comme Jésus s'apprête à soulager, à ressusciter son fils, ce ne sont pas des paroles vides. Parfois, nous disons des paroles vides, ou parfois nous entendons des paroles vides, alors que devant une circonstance difficile, nous disons, c'est pas grave, ça va bien aller, tu vas voir. Mais sans pouvoir vraiment soulager les gens qui sont dans le cortège de mort, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien, sauf gémir. Ils ne peuvent pas, là, redonner la vie à ce fils. Mais voilà que Jésus, lui, peut le faire. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il s'apprête à faire. Et c'est pourquoi il peut dire, ne pleure pas. Nous lisons verset 14, ces paroles extraordinaires que nous devrions méditer toute la semaine. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Que fait Jésus, il parle à un cadavre, il parle à quelqu'un qui est mort, et on voit toute la majesté, la puissance de ses paroles ici. Je te le dis, lève-toi. Jésus adresse la parole à quelqu'un qui est mort comme s'il avait la vie et comme s'il pouvait entendre, écouter et répondre. Comme Jésus va dire, Lazare, sors. Ou comme il va dire à la fille de Jaïrus, « Enfant, lève-toi. » Et tout de suite, spontanément, obéissance de la part de ces morts qui reprennent vie. Jésus fait ce qui nous semble à nous inutile. Il est mort, on ne peut pas y parler, ça ne donne rien. Que se passe-t-il? Le verset 15 nous dit, « Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Le mort s'assit et se mit à parler. En un clin d'œil, le cœur, le cerveau, les poumons, les sens, tout se remet à fonctionner comme ça, spontanément, par la puissance du Fils de Dieu. Vous imaginez ici la puissance du Seigneur Jésus. En Jésus est la vie. Avec lui, rien n'est impossible. Il commande et le miracle a lieu. Tout de suite, le fait que le mort se mette à parler prouve qu'il est bel et bien de retour à la vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils ressuscité, on ne le sait pas. On n'a pas besoin de le savoir puisque la Bible ne nous le dit pas. Comme elle ne nous dit pas aussi qu'est-ce que Lazare dit après sa résurrection ou ce que la fille de Jairus aurait pu dire. On ne sait pas ces choses-là, mais ce sont des preuves que la personne est réellement revenue à la vie qu'elle peut communiquer et parler. Les miracles accomplis par le Seigneur Jésus donnent un aperçu de ce qui est à venir dans le futur, de ce que sera l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Chacun des miracles individuels que Jésus a accomplis oriente notre attention vers un miracle encore beaucoup plus grand le jour où le Fils de Dieu va revenir, va dire une parole puissante. Et comme dit l'Évangile de Jean, chapitre 5, les morts vont sortir des tombeaux et ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie. Les miracles de Jésus raconte les délivrances particulières et le salut dont ont bénéficié certaines personnes dans des conditions particulières, mais en même temps, ces miracles-là annoncent une délivrance plus radicale et un salut plus profond, accessible à tous ceux qui croient dans le Fils de Dieu. Le miracle rapporté ici en Luc 7 est un grand miracle qui préfigure la délivrance et le salut de tous ceux qui pleurent, qui luttent, qui souffrent, qui sont isolés, qui se sentent seuls, qui ont besoin d'être consolés et qui le seront par le Fils de Dieu. La tristesse fait soudainement place ici au débordement de joie et à la louange à Dieu. Nous lisons verset 16. Tous glorifiaient Dieu. Tous glorifiaient Dieu. Et un jour, ce sera le cas. Les miracles, les guérisons de Jésus, isolées, ne sont pas aléatoires, elles sont des signes, des annonces, une préfiguration, une espèce de parabole visuelle qui illustre la personne de Jésus qui est réellement le Sauveur et qui illustre aussi le salut merveilleux qu'il nous apporte. Luc 7 ne dévoile qu'imparfaitement l'accomplissement total des promesses de Dieu. Ce qui se passe en Luc 7 annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans toute sa perfection, dans toute sa plénitude, ce qui va arriver à la croix, lorsque Jésus va être à la croix, lorsqu'il va mourir pour expier toutes nos offenses, qu'il va ressusciter. Là, ce sera encore d'une façon plus glorieuse que les gens pourront célébrer la grâce et la puissance de Dieu. C'est là, à la croix, que Jésus a réellement touché à la mort et qu'il a endossé en quelque sorte la mort en notre faveur. L'apôtre Paul a cette parole extraordinaire en 2 Timothée 1, 10. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Le Nouveau Testament témoigne avec joie, avec allégresse de cette victoire de Jésus-Christ Il a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Les scènes des Évangiles qui illustrent les résurrections, les guérisons de Jésus préfigurent cette grande délivrance ultime. Nous sommes saisis, réconfortés et frappés de voir à quel point le Fils de Dieu remporte le triomphe sur la mort. Les gens disent au verset 16, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Probablement que plusieurs personnes faisaient un rapprochement avec les prophètes Élie et Élisée dans l'Ancien Testament, qui justement avaient œuvré dans cette région aussi, qui justement eux aussi avaient redonné à des veuves leur fils qui était mort. Il y a quand même de grandes différences entre ce qu'avait fait Élie, Élisée, et ce que fait Jésus. Le prophète Élie, lorsqu'il avait œuvré pour ramener à la vie le fils de la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait prié Dieu. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Mais ici, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne fait pas la même chose. Jésus ne demande pas à Dieu d'opérer un miracle. Jésus lui-même est Dieu et il opère lui-même le miracle. Il agit en tant que Dieu qui accomplit par sa puissance, juste par une parole, la résurrection de cette personne. Il parle aux morts et lui, il le ramène dans le monde des vivants par sa puissance. Autrement dit, si autrefois les prophètes Élie et Élisée avaient invoqué Dieu, maintenant Dieu est là, présent, ici, parmi ces gens qui sont là en train d'œuvrer puissamment dans son amour. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair. La deuxième personne de la Trinité s'est incarnée pour venir soulager, guérir, sauver, délivrer ceux qui souffrent des causes de l'entrée du péché dans le monde. Ne pleure pas. Jésus offre plus que sa sympathie, que sa compassion. Il vient de très loin, il vient du ciel sur la terre pour apporter la vie. Il paie un prix exorbitant en allant à la croix pour rendre possible pour le peuple de Dieu ses trésors de compassion et de bienveillance. Le sang versé par le Fils de Dieu nous dit, nous adjure, ne pleure pas. C'est une source de grande consolation pour nous parce que nous savons ce qui s'en vient par la suite. Comment s'opère l'œuvre du salut? Le Seigneur s'adresse à des morts spirituels qui n'ont pas la vie, qui ne peuvent pas se donner la vie. Et il les fait naître de nouveau, il leur donne une vie nouvelle, par sa puissance, dans sa souveraineté, sans aucune contribution des efforts humains. Si aujourd'hui, vous avez la vie éternelle, c'est parce que Dieu s'est adressé à vous à un moment donné alors que vous étiez mort spirituellement. Et Dieu vous a donné la vie par son esprit. Par l'Évangile qui est proclamé partout dans le monde, Dieu appelle encore ceux qui sont morts dans leurs péchés à venir à la vie. Ceux qui sont encore esclaves de toutes sortes de mauvaises habitudes, ceux qui vivent dans le désespoir, Dieu, par sa parole puissante, qu'il envoie dans le monde entier, qui est proclamé aujourd'hui même, partout sur la terre, Dieu appelle ceux qui lui appartiennent et les fait naître de nouveau. Il vient les chercher et ils peuvent, eux aussi, s'asseoir, se lever, se mettre à parler, se mettre à rendre gloire à Dieu et célébrer sa bonté. C'est la puissance éclatante, époustouflante du Fils de Dieu, venu ici-bas, parmi nous, non seulement avec des paroles de réconfort, mais avec une puissance de vie. L'ordre de Jésus ici donné à ce jeune homme nous fait penser au début du livre de la Genèse, lorsqu'il est dit « Que la lumière soit, et la lumière fut », une parole efficace et puissante. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Le livre des Psaumes nous dit ça. L'œuvre de Jésus, vous pourriez me dire, et vous avez raison, n'est pas arrivée à son aboutissement, dans le sens qu'il y a encore pour nous des larmes à verser. Il y a encore pour nous des raisons de pleurer. Il y a encore pour nous toutes sortes de choses qui peuvent nous attrister. Ce miracle de Jésus est un avant-goût de l'œuvre suprême que nous attendons en toute sa plénitude. Nous vivons dans cette attente de la plénitude du règne de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ dans l'histoire n'est pas encore achevée, bien que le Seigneur Jésus ait remporté la victoire sur la mort, bien qu'il ait enlevé l'aiguillon de la mort, de sorte que la mort ne peut plus nous condamner. Il reste encore le rendez-vous de la mort, mais que nous abordons avec confiance, courage et réconfort. La résurrection modifie notre perception de la mort. Elle sera suivie de la gloire sans fin. Apocalypse 20, 14 évoque ce grand jour en disant « La mort fut jetée dans l'étang de feu. » La nouvelle création va jaillir. Il n'y aura plus jamais de larmes, de deuil, de cris, de douleur. Jamais ce sera fini pour toujours. Toute notre tristesse sera changée en allégresse. Tous les pleurs seront changés dans des chants de louange, de reconnaissance et d'adoration. Donc, ce qui se passe ici en Luc 7, 11 et 17 est comme une avant-première sur une petite échelle de ce qui va se produire lorsque ceux qui sont dans les tombes vont ressusciter sur la parole du Fils de Dieu. Alors, le dernier ennemi sera vaincu. Lorsque la mort vient au contact de celui qui est notre vie, elle est obligée de lâcher sa proie, quel qu'en soit le butin. Et si ces événements-là se sont produits à l'entrée de la porte de la ville de Naïn, un jour à la porte de la Nouvelle Jérusalem, les morts vont ressusciter pour l'allégresse éternelle. Le récit se termine en disant au verset 16 et 17, « Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Un grand prophète, le grand prophète vers lequel convergeaient tous les prophètes précédents, le grand prophète ultime s'est levé. Les foules sont remplies d'émerveillement, de crainte, de louange, comme nous devrions l'être nous aussi quand nous regardons ce magnifique texte. La crainte, la louange, la reconnaissance, nous rendons gloire à Dieu, nous sommes émerveillés devant ce que le Seigneur fait ici. Il considère Jésus comme un grand prophète. Jésus est plus qu'un grand prophète. Les foules ne le comprennent pas, ne le saisissent pas encore comme il faut. Ça va venir, mais maintenant, ils ne semblent pas découvrir ou apprécier vraiment que Jésus n'est pas seulement un grand prophète, mais il est Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu présent ici. Le Dieu que le prophète Élie, Élisée invoquait, voilà, il est là, présent devant eux. « Ne pleure plus, » dit Jésus, en posant son regard plein de compassion sur cette femme. « Ne pleure plus, » dit Jésus encore aujourd'hui à tous ceux qui souffrent, qui sont chagrinés, qui sont aux prises avec des douleurs. Et le Seigneur ne dit pas ça dans le sens qu'il méprise nos souffrances ou qu'il minimise nos douleurs. Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a personne mieux que lui qui compatit, qui saisit ce que nous vivons. Parce que lui aussi, l'angoisse, l'anxiété que nous avons, Il l'a vécu lui aussi. Ses yeux ont été bien des fois rougis alors qu'il était ici sur la terre et qu'il se préparait à aller au sacrifice à la croix. C'est parce qu'il a tendu la main pour nous toucher d'une façon particulière lorsqu'il est allé à la croix qu'il peut nous dire aujourd'hui, ne pleure pas, fais-moi confiance, espère, de grandes délivrances approchent. Jésus a fait irruption devant ce convoi funèbre. Convoi funèbre où nous conduira, nous aussi, la mort, mais Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quiconque vit et croit en moi vivra. » C'est la parole de Jésus, de sorte que aucune de nos larmes ne doit tomber à terre sans en même temps penser à la grande consolation qui s'en vient, à la grande victoire éternelle du Seigneur Jésus. Notre regard doit se poser, doit se porter vers Jésus et ses promesses en tout temps. Quelle éclatante manifestation ici du Fils de Dieu, de la réalité qu'il est le Sauveur, puisqu'il vient ôter les conséquences du péché, les maladies, même la mort. Il peut ôter la source de toutes ces misères, ce qui est le péché. Il est le Sauveur et c'est pour ça qu'il vient. En conclusion, bien-aimés, cet événement remarquable est consigné dans les Évangiles pour nous amener à désirer connaître de mieux en mieux le Fils de Dieu. Cet événement est consigné pour notre réconfort. Cet événement aussi nous rappelle la compassion de Jésus et il nous faut savoir que le Fils de Dieu, aujourd'hui, maintenant, est toujours aussi plein de compassion qu'il l'était lorsqu'il était sur la terre et lorsqu'il accomplissait des guérisons et des miracles. Il est toujours aussi rempli de sympathie et d'amour pour son peuple. Et il est toujours aussi plein de puissance pour secourir et pour soulager, pour encourager, pour fortifier. Quel bonheur pour nous de le connaître. Amen.